le magazine des Nations Unies.
La MONUSCO, une année de plus. Ainsi en a décidé le Conseil de sécurité de l'ONU jeudi dernier à New York. Cependant, l'organe exécutif de l'ONU a réduit de 10% les effectifs militaires contre les 6000 casques bleus que proposait le gouvernement congolais. Les contours de la résolution du Conseil de sécurité, c'est dans ce magazine. La RDC est troisième pays en Afrique par le nombre de tuberculeux. En marge de la journée mondiale consacrée à la lutte contre la tuberculose, un expert de l'OMS, bureau de la RDC, va vous brosser dans ce magazine les caractéristiques de cette maladie. Martin Kobler nomme une ambassadrice de la jeunesse pour la paix. L'honneur est choix à notre consoeur Tina Salama, journaliste animatrice de Radio Capi. Le magazine des Nations Unies la reçoit comme invitée dans cette édition. Enfin, mois de mars, mois de la femme, la parole à l'assistante du représentant spécial du secrétaire général dans la rubrique Portrait de ce dimanche.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous. Une année, c'est le nouveau mandat qu'a renouvelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à la MONUSCO jeudi dernier. Cependant, dans sa résolution 2211, le Conseil a décidé de réduire de 10% les effectifs militaires de la mission. Ceci après de longues discussions avec le gouvernement congolais qui réclamait le retrait immédiat de 6000 casques bleus. Jean-Pierre Elali Ikoko pour les détails.
Les membres du Conseil de sécurité ont voté à l'unanimité la résolution 2211. Cette résolution prolonge d'une année les mandats de la MONUSCO. En effet, les conseils de sécurité estiment que la situation sécuritaire reste encore volatile dans les parties nord et est de la RDC, à cause bien entendu de la présence de forces négatives étrangères et aussi d'une constellation des groupes armés locaux. Et c'est le premier point de la résolution 2211. Deuxième point important, la réduction des effectifs militaires de la MONUSCO. Le Conseil de sécurité a décidé de réduire de 2000 casques bleus sur près de 20 000 autorisés, alors que Kinshasa réclamait le départ d'au moins 6 000 casques bleus dès 2015. À plus long terme, le Conseil de sécurité prévoit bien la mise en place d'une stratégie de retrait graduel et progressif. Mais un retrait progressif lié surtout à des progrès réels sur le terrain. Des progrès dans la démocratisation, la mise en place d'une police et d'une armée efficaces et respectueuses des droits de l'homme, ainsi que dans la réduction de la menace que représentent les groupes armés. Enfin, troisième détail important, le membre du Conseil de sécurité recommande à la MONUSCO de se montrer plus souple, mobile et efficace sur le terrain, afin de répondre à sa mission de protection des civils et d'appui au FRDC dans la traque des forces négatives. Pour rappel, la force onusienne est présente depuis 15 ans en RDC. Elle est essentiellement déployée dans l'Est, en proie à des conflits depuis plus de 20 ans.
Autre actualité de la semaine, la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre et de la réduction de la violence armée, CNC, ALPC en sigle, se dote de 3 antennes provinciales. Ces 3 antennes ont été inaugurées entre le 24 et le 27 mars, successivement à Kisangani, Lubumbashi et Mbandaka. Un projet qui illustre la volonté du gouvernement de restaurer la sécurité dans le pays. Geneviève Delanoy, chargée de communication du PNUD, revient sur l'équipement de ces antennes et le coût du projet. Ses propos sont recueillis par Jean-Pierre Elali Coco.
Ce projet a permis de réceptionner au total 5 bâtiments totalement achevés et équipés à Bunia, Boma, Lubumbashi, Mbandaka et Kisangani. La construction de ces antennes a été financée par l'Allemagne et les équipements bureautiques, informatiques ainsi que le transport ont été financés par la coopération australienne pour un coût total de $415 000. L'inauguration des 3 antennes de Kisangani, de Lubumbashi et de Mbandaka est donc un maillon important de la chaîne de sécurisation des personnes et de leurs biens, de la restauration de l'autorité de l'État, de la consolidation de la paix au niveau communautaire et provincial, plus largement au niveau national.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le 24 mars est une date consacrée par les Nations Unies à la lutte contre la tuberculose dans le monde. La RDC occupe la troisième position en Afrique en ce qui concerne le nombre de tuberculeux, avec environ 112 000 cas en 2013. Le docteur Nico Kiere Macheni est administrateur national en charge de la tuberculose au bureau de l'OMS RDC. Il explique les caractéristiques de cette maladie dans cet entretien avec Honoré Misenga Kalala.
Docteur Nico Kiere, bonjour.
Bonjour.
Docteur, le 24 mars est une journée mondiale consacrée à la lutte contre la tuberculose. Comment s'est définie d'abord cette maladie, la tuberculose?
Oui, en fait, la tuberculose est l'une des maladies infectieuses qui est causée par un agent causal qui est le Mycobacterium tuberculosis et qui a un tropisme plus sur le poumon. Et c'est comme ça que parmi les signes les plus parlants de la tuberculose, vous avez la toux qui apparaît au grand jour. Et les communs des mortels, quand ils parlent de la toux, ils voient la tuberculose. Mais en dehors de la toux, il y a plusieurs autres signes, notamment la transpiration, la fièvre, l'anorexie, et l'amaigrissement et l'asthénie, dont la personne se sent fatiguée. Ça, ce sont les 6 signes principaux que nous avons dans la tuberculose. En médecine, nous disons toujours les 3A, 3T. Les 3A, vous avez anorexie, asthénie, amaigrissement. Les 3T, tu as la température, c'est-à-dire la fièvre, tu as la toux et tu as la transpiration nocturne. Ça, ce sont les signes majeurs qu'on trouve dans les cas de la tuberculose.
Anorexie signifie quoi?
C'est le manque d'appétit. La personne, il peut avoir à manger, mais n'a pas l'appétit. Donc, chaque fois, vous êtes obligé de le pousser à manger, ainsi de suite. C'est ça, l'anorexie. L'asthénie, c'est une fatigue, et la personne est fatiguée. Et l'amaigrissement, bon, c'est la perte de poids.
Donc, quand ces signes-là se présentent d'une manière permanente, là, on peut penser à la tuberculose.
Oui, bien sûr, mais il ne faut pas aller vraiment dans le sens de chercher que tous ces signes-là soient réunis. En termes de santé publique, le premier élément majeur, c'est la toux. Une toux persistante d'abord. Dès que vous avez cette toux, vous pouvez chercher d'autres signes. Il n'est pas obligé que les 6 signes se retrouvent. Mais dès que vous avez la toux, vous avez la fièvre, vous pouvez déjà penser à la tuberculose et chercher à exclure la maladie. Dans les directives du programme et au niveau mondial, jadis on parlait d'une toux d'au moins 14 jours. Mais il faut retenir aussi qu'une toux de 14 jours commence par un jour. Et les malades, généralement, ne se souviennent pas du jour où a commencé la toux. Il te dira peut-être c'est depuis hier, alors qu'il a déjà commencé à tousser bien avant. C'est comme ça que les directives voudraient que maintenant, et même par rapport au thème de la journée, cette fois-ci, on dit passons à la vitesse supérieure, c'est-à-dire même une toux d'un jour. Quand les malades parlent déjà de la toux, vous devez déjà penser à la tuberculose, mettre les mécanismes pour voir si ce n'est pas une tuberculose.
Est-ce que la tuberculose a plusieurs variantes?
Bien sûr, il y a plusieurs variantes et ces variantes, on pouvait les classifier selon qu'il s'agit des sites. J'ai bien dit ici que ça a un tropisme plus au niveau du poumon, mais la tuberculose peut atteindre tout organe du corps humain. Et c'est comme ça que vous aurez des tuberculoses pulmonaires et des tuberculoses extra-pulmonaires qui ne sont pas dans les poumons. Et là, vous aurez des tuberculoses au niveau des ganglions, au niveau des os, vous avez ça au niveau intestinal. Bref, vous en trouvez dans tous les organes, surtout que les passages au niveau sanguin peuvent permettre que les microbes se retrouvent partout. Ça, c'est sur le plan anatomique, mais sur le plan aussi de la réponse au traitement. Nous avons la tuberculose dite sensible, c'est-à-dire qui répond aux médicaments usuels. Et nous avons aussi la forme grave, bon, la forme difficile à traiter, c'est la forme multirésistante, c'est-à-dire qui ne répond pas aux médicaments usuels. Et au-delà de ça, on a ce que le monde appelle maintenant la tuberculose ultra-résistante. Donc c'est encore très résistant et là, ça vous demande des traitements allant jusqu'à 24 mois, alors que celle qui est ordinaire sensible, c'est 6 à 8 mois, vous avez la solution pour le mal.
Alors docteur, pourquoi la tuberculose marche dans beaucoup de cas avec le VIH?
Comme vous savez, le VIH c'est une porte ouverte. En fait, il prépare les terrains. Nombreuses sont les personnes qui ont déjà été en contact avec les bacilles de la tuberculose. Mais le corps lui-même les contient, étant donné que le système immunitaire est fort. Mais dès que la personne est affectée par le VIH a comme principale action, c'est la destruction du système immunitaire. Et dès qu'il détruit le système immunitaire, tous les BK qui étaient, les germes qui étaient dans la personne, ont la voie libre pour agir. Et quand ils ont la voie libre pour agir, la personne qui avait une tuberculose latente, c'est-à-dire une forme non-maladie, développe maintenant la forme maladie. Et c'est comme ça que les personnes qui ont le VIH sont plus susceptibles à faire la maladie, puisqu'ils ont déjà, et dans les contextes de notre pays, rares sont les gens qui n'ont jamais été en contact avec le BK. Et le fait qu'ils ont été en contact, ils en ont sous la forme quiescente. Et cette forme quiescente, quand l'immunité n'existe plus, il prend le devant et puis bon, il provoque la maladie. Donc la santé, c'est toujours un problème d'équilibre.
Docteur Nkonkero, pourquoi la tuberculose est une maladie généralement des couches les plus pauvres et des plus vulnérables à travers le monde?
Oui, c'est vrai ce que vous dites. Mais il faut retenir une chose, que la tuberculose est partout au monde. Il n'y a pas un seul pays qui est épargné, comme on parle du paludisme, on s'apprend plus les zones tropicales, mais la tuberculose, vous en trouvez partout. Mais ceux qui en souffrent, c'est plus les pauvres, et ainsi de suite, puisque ceux-là réunissent les conditions. La promiscuité, les conditions de logement, la malnutrition, donc tous ces éléments mis ensemble favorisent l'éclosion de la maladie. Mais vous ne direz pas que la maladie n'existe pas aux États-Unis, ça existe. Il y a des gens qui en ont et c'est toujours dans ce contexte-là. Et la petite histoire, quand on fait l'étude sur l'évolution de la tuberculose dans les pays occidentaux, vous vous rendrez compte que la tuberculose a commencé à décliner, c'est-à-dire le nombre a commencé à diminuer avec le plan Marshall. Il n'y avait pas encore les médicaments. Dès qu'on a amélioré les conditions de logement, les conditions sociales des communautés, la maladie est partie. Ça diminue sensiblement. Et donc, même tous les efforts que nous faisons, si les sociales, si les logements, si tout cela ne s'améliore pas, il y aura certes des avancées, mais la tuberculose risquera d'exister toujours.
Docteur, par rapport à cette maladie, est-ce que vous avez un mot à adresser aux Congolais, aux auditeurs de Radio Capi? On constate que la tuberculose, finalement, c'est une maladie guérissable.
Oui, les mots, c'est un mot d'espoir. La tuberculose est une maladie comme toute autre maladie. Mais ça a l'avantage qu'il y a des médicaments et ces médicaments guérissent. Et 95% des malades tuberculés mis en traitement peuvent arriver à la guérison. Les médicaments sont efficaces et en plus, et là nous jetons un coup de chapeau au gouvernement qui a décrété la gratuité de ces soins au niveau de la RDC. Ce n'est pas une maladie honteuse, c'est une maladie qui est guérissable. La honte, c'est celle-là qui tue. Mais la tuberculose, elle, traitée, ne tue pas. Et d'autres choses, c'est la co-infection. Le fait qu'il y ait le VIH dans notre pays, si on vous dépiste tuberculé, laissez qu'on cherche aussi s'il y a le VIH. Et à cette occasion-là, on soignera aussi pour le VIH et vous aurez votre vie normale. Vous pouvez travailler comme tout le monde.
Docteur Nikonkere, merci de votre disponibilité.
Le PNUD a co-organisé du 22 au 25 mars dernier à Kinshasa le Forum international agro-business sur le thème « Vers une croissance inclusive, une nouvelle vision pour la transformation agricole en Afrique ». Pendant 4 jours, petits producteurs, bailleurs de fonds, représentants des secteurs privés et publics, banquiers, chefs de coopération, techniques, discutent du secteur agroalimentaire et de ses filières. L'objectif, rendre l'agriculture plus performante, lutter contre la faim et la malnutrition, mais aussi nourrir sainement la population à un prix abordable. Une fois n'est pas coutume, un avis de recrutement de l'UNESCO. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le bureau de l'UNESCO RDC recrute 3 consultants pour animer 3 conférences-débats. Les thèmes de ces conférences-débats seront « Meilleure couverture de l'information et journalisme indépendant », »,« Genre et médias en RDC », »,« Vers une meilleure sécurité numérique des journalistes et de leurs sources ». Les dossiers de candidature à soumettre doivent comprendre l'avant-projet du texte de la conférence et une proposition financière, une lettre de motivation, à adresser à monsieur le chef de bureau et représentant de l'UNESCO en RDC. Plus de détails, vous pouvez contacter ce numéro 081 88 48 253. Enfin, terminons sur le plan sécuritaire par cette info de Ocha. Plus de 16 500 personnes se sont déplacées dans le territoire de Malembankoulou et Pweto à la suite des attaques simultanées des combattants Maïmaï sur 6 villages. À Malembankoulou, 3 villages dans le groupement situé au nord-est de Moulongo ont été pillés avant d'être incendiés par ces miliciens, causant les déplacements des habitants. Dans le territoire de Pweto, les villages Kampangwe, Mukunda et Mutabaka, à 150 km au sud-est de Pweto, ont été incendiés, provoquant ainsi des déplacements d'autres personnes.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU a nommé le 17 mars dernier Tina Salama, journaliste animatrice à Radio Capi, ambassadrice de la jeunesse pour la paix. Qu'est-ce qu'une ambassadrice de la jeunesse? Quel est son rôle dans un pays post-conflit comme la RDC? Comment concilier cette fonction au métier de journaliste? Et quel est son agenda de travail? C'est autant de questions que Jean-Pierre Elali Coco a posées à l'intéressé dans cet entretien que je vous propose de suivre.
Tina Salama, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean-Pierre Elali.
Vous êtes journaliste, l'une des animatrices les plus connues, même les plus adulées de Radio Capi. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Martin Kobler, vient de vous nommer ambassadrice de la jeunesse pour la paix. D'abord, Tina, qu'est-ce qu'une ambassadrice de la jeunesse pour la paix?
Alors, merci Jean-Pierre et Lalise de m'avoir reçu dans votre émission en UMAG. Pour commencer, j'aimerais remettre les choses un peu dans leur contexte, hein, pour que les gens comprennent un tout petit peu pourquoi cette décision d'abord.
Allez-y.
Vous savez, les 15 dernières années, de 2000 à 2015, on parlait des objectifs du millénaire pour les développements, les EMD, et c'est en train de prendre fin donc en cette année 2015. Et là, nous sommes dans une sorte de période transitoire. Nous passons donc des EMD aux objectifs des développements durables, dans ce qu'on appelle les ODD. Et dans ce processus-là, les Nations Unies se sont rendues compte qu'elles devraient absolument impliquer la jeunesse. La communauté internationale tenait à intégrer les questions de la jeunesse aux activités de développement menées tant au niveau mondial que régional ou alors national. Pour donc assurer une sorte de processus de développement durable et général, il faut donc investir dans la jeunesse et agir en partenariat avec les jeunes. Donc les Nations Unies veulent absolument travailler avec les jeunes.
Donc impliquer la jeunesse.
Impliquer la jeunesse, qu'ils ont peut-être une autre vision, une autre conception du monde. Ils sont jeunes, ils ont beaucoup d'énergie. Et voilà, donc les Nations Unies veulent travailler avec les jeunes pour ce nouveau projet, les ODD. Et du coup, il y a eu beaucoup de rencontres un peu partout dans le monde, notamment récemment au siège des Nations Unies à New York, où on a invité la jeunesse qui s'exprimait sur l'économie, l'emploi et beaucoup d'autres choses. Et donc, dans beaucoup de pays, on est en train d'essayer de conscientiser la jeunesse. Et c'est même pour ça que le représentant a pensé qu'il était temps pour lui de pouvoir être en contact assez régulier, en tout cas, si pas permanent, avec la jeunesse congolaise. D'où ce projet ou cette nomination des ambassadeurs de la jeunesse en RDC. Et puis, il faut le dire, hein, les jeunes commencent aussi à être conscients qu'ils ont un rôle à jouer dans le développement du pays, dans la prise de décision. Voilà. Alors justement, Jean-Pierre Elali, pour répondre à votre question, c'est que un ambassadeur ou une ambassadrice de la jeunesse n'est pas tant que ça pour la paix. On n'est pas là que pour la paix. Donc, en gros, le titre, c'est ambassadrice des Nations Unies pour la jeunesse en République démocratique du Congo. Et donc, notre rôle est simple, hein. C'est donc juste pour s'impliquer dans la conscientisation des jeunes afin de mettre en place des politiques pour les aider à s'impliquer davantage dans les processus de prise de décision politique, économique, sociale, culturelle. Nous serons une sorte de porte-parole entre le représentant spécial Martin Kobler et la jeunesse congolaise. Ou de notre côté, nous allons représenter la jeunesse congolaise auprès des instances des Nations Unies.
Tina, vous êtes une femme. Votre nomination intervient au mois de mars, donc c'est un mois qui est dédié à la femme. Quel sens plutôt donnez-vous à cet acte de nomination?
Alors moi je me réjouis effectivement hein, que ça tombe au mois de la femme, le mois de mars, hein. Mais c'était vraiment un hasard comme ça. Je ne pense pas que le représentant spécial Martin Kobler en le faisant avait fait exprès de le faire au mois de mars. C'est arrivé comme ça et tant mieux pour moi, je m'en réjouis. Et donc voilà, mais je ne suis pas une féministe, hein, quoique je crois absolument aux droits de la femme, à la parité et tout ce que vous voulez, mais en tout cas je me réjouis que ça tombe au mois de la femme.
Et justement, vous êtes une femme, vous êtes nommée, vous remplacez également une femme à côté d'un homme, le gender qui est respecté.
Mais oui, nous sommes aux Nations Unies, ce sont des valeurs que les Nations Unies en tout cas mettent en exergue et devraient donc respecter, notamment la parité, hein, les genders. C'est important de travailler avec la paire, hommes, femmes, nous sommes complémentaires. Je pense qu'il aurait pu se dire un seul ambassadeur suffit, mais il a pensé que ce serait mieux un duo, je veux dire, une femme et un homme, tant mieux.
Et un mot sur le plan de travail, est-ce que vous avez un agenda de travail? Qu'envisagez-vous faire dans un proche avenir, Tina?
Alors il y a beaucoup de choses à faire avec la jeunesse, hein. Ils ont peut-être d'autres priorités, l'emploi, le chômage, hein. Les jeunes se retrouvent désœuvrés, il y a l'accès à l'éducation, donc ce que nous allons commencer à faire en tout cas, c'est que, et c'était même ça je pense l'idée du représentant en nommant ses ambassadeurs, il s'est rendu compte qu'au Congo il n'a jamais eu un échange franc, par exemple avec les jeunes congolais, à chaque fois qu'il a eu peut-être à être invité dans certaines universités ou des endroits où il pouvait rencontrer les jeunes.
Et vous allez servir des catalyseurs, des charnières entre le représentant spécial et la jeunesse congolaise.
Donc oui. Il ne les rencontrait pas directement comme ça, c'était juste voilà des cérémonies assez protocolaires où d'autres experts intervenaient et il veut absolument rencontrer cette jeunesse congolaise. Bientôt, là en tout cas dans 2 ou 3 jours, hein, on a prévu une rencontre avec la jeunesse congolaise. Le représentant spécial Martin Kobler va rencontrer la jeunesse. Comme je vous l'ai dit plus tôt, il s'est plaint en tout cas qu'il n'a jamais eu ses contacts face-to-face comme on peut dire hein, avec la jeunesse congolaise.
Ça
sera le 31 de ce mois. Donc on a organisé ce qu'on appelle un fishbowl. Donc voilà, les jeunes seront tout autour de lui, il y aura un modérateur et M. Kobler sera au milieu. il va échanger avec les jeunes. Et d'un autre côté, vous avez la jeunesse congolaise aussi qui manque souvent d'interlocuteurs. On ne nous écoute pas, nous avons pourtant beaucoup à dire, beaucoup à faire. Et ben, ils ont une occasion puisque les Nations Unies sont là pour ça et nous, nous sommes là pour ça. Mm-hmm. Donc nous allons vraiment essayer dans un premier temps de les mettre souvent en contact avec les Nations Unies, écouter leurs préoccupations, les remonter, faire un plaidoyer si on le peut. Et s'ils organisent quelque chose, par exemple, avec des thèmes qui nous concernent, notamment les valeurs des Nations Unies, ils seront là.
Tina Salama, quel est le rôle que peut jouer une ambassadrice de la jeunesse pour la paix comme vous dans un pays post-conflit comme la RDC?
Énormément. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec la jeunesse en cette période post-conflit. Vous le savez, je venais de le dire, en tout cas, la RDC a connu beaucoup de problèmes, des conflits encore. Il y a encore certaines régions exactement qui sont encore touchées par ces conflits, encore des groupes armés un peu actifs par-ci par-là. Mais on n'a pas fini vraiment de parler des problèmes qui touchent la jeunesse. Ailleurs, c'est d'autres problèmes que les jeunes rencontrent. Hein. Je l'ai dit, le chômage, l'accès à l'emploi qui est très difficile, à l'éducation également. Et puis voilà, donc, il faut conscientiser la jeunesse, qu'ils puissent se rendre compte qu'ils ont quelque chose à dire dans la prise de décision, notamment dans ce pays, qu'ils puissent comprendre qu'ils ont pratiquement les mêmes revendications, qu'ils ne viennent pas en mouvement éparpillé comme ça, mais qu'ils viennent tous avec un même langage et qu'ils soient conscients du rôle qu'ils doivent jouer. Ce n'est pas à dire qu'ils ont que des droits, ils ont également des devoirs d'être citoyens engagés. Les générations passées ne nous ont pas beaucoup aidés. Les jeunes de l'époque, qui sont aujourd'hui peut-être adultes, n'ont peut-être pas fait grand-chose. Et il faudrait que nous, qui sommes jeunes en ce moment, puissions vraiment faire quelque chose pour que les générations futures puissent parler de nous. Donc voilà.
Et tout travail mérite un salaire. Est-ce que vous aurez certainement un salaire pour ça?
Je ne sais pas comment vous répondre par rapport à ça. C'est qu'il ne faut pas toujours voir l'intérêt, l'argent en premier lieu. C'est d'abord l'honneur.
Ce n'est pas un problème d'intérêt, mais tout simplement...
Pour moi, c'est d'abord un honneur. Oui. C'est vraiment... C'est prestigieux. C'est... Voilà. Donc, comme vous le savez, hein, en Nations Unies, il y a ce concept-là d'avoir des ambassadeurs de bonne volonté. Tout plein. C'est souvent des stars, des chansons, des sports qu'on prend comme ça.
Il faut dire que vous êtes aussi une journaliste, une star.
Merci si
vous
le dites. Une animatrice
bien attitrée.
Donc, vraiment ici, pour lever tout équivoque, non. Il n'y a pas d'aspect, une implication financière, voilà.
Ok. Tina, votre nouvelle fonction vous contraint à beaucoup voyager, je l'imagine. Vous êtes aussi journaliste, mariée et mère de famille. Comment allez-vous concilier la nouvelle fonction avec votre profession, par exemple, et votre rôle de maman?
Évidemment, hein, je ne dis pas que c'est beaucoup de choses, mais c'est faisable. Beaucoup de femmes l'ont prouvé, beaucoup de femmes le font actuellement. C'est plus comme à l'époque de nos mamans où les femmes restaient à la maison, se contentaient de faire des enfants et de s'occuper des tâches ménagères. Actuellement, on trouve des femmes avec 6 enfants, 5 enfants, c'est pas mon cas, hein, bien évidemment, mais qui, au-delà de leur rôle de mère, d'épouse, ont un travail régulier, et aussi elles sont impliquées dans d'autres associations féminines, par exemple. Donc c'est vraiment faisable. Et moi, j'ai un problème, ce que je déteins, sur la monotonie. J'aime bien changer et j'aime pas m'ennuyer, ne rien faire. J'ai eu, je pense, à un moment ici où je pensais que, bon, j'étais pas assez utilisée. Et donc, j'allais dans d'autres services demander à certains collègues, notamment dans les desks Swahili, s'ils avaient un petit papier à me donner pour traduire, pour faire passer. Maintenant, je suis quelqu'un de très dynamique, active et tout le reste. Donc, ça m'arrange vraiment. C'est vrai que c'est pas évident de tout assumer. Il faut vraiment faire la part des choses.
Donc, il faut planifier son temps.
Il faut bien planifier son temps, absolument.
Voilà.
Mais c'est faisable, en tout cas.
Tina Salama, je vous remercie.
Merci, Jean-Pierre Elali.
Cap sur le Nord Kivu, une dizaine d'enfants capturés lors des opérations contre les FDLR dans Rutshuru ont été retirés des mains des FRDC. Ces enfants qui faisaient partie du groupe armé FDLR FOCA ont été ensuite remis à la MONUSCO. Ce retrait a été possible grâce au travail de plaidoyer de la section protection de l'enfant de la MONUSCO. Moïse Mutunga Lukube pour les détails.
Au total, ils sont 15 enfants dont l'âge varie entre 12 et 17 ans. Tous capturés par les FARDC dans les villages de Kalongo et Tongo en territoire de Rutshuru lors des opérations contre les FDLR. Ils étaient dans les groupes FDLR FOCA. Et d'après la section protection de l'enfant de la MONUSCO, parmi ces enfants, 11 sont congolais et 4 rwandais. Ils étaient transférés à Goma la semaine dernière par les commandements de la 34e région militaire. La cérémonie de remise de ces enfants à la MONUSCO qui a fait un travail de plaidoyer auprès des FARDC pour les retirer a eu lieu samedi dernier à Goma. Actuellement, ces enfants sont entre les mains d'une ONG locale partenaire à la MONUSCO pour une période de transition avant la phase de réunification avec les familles. Notons que la section protection de l'enfant a lancé depuis lundi le processus de vérification de la présence des enfants au sein des unités de FARDC au Nord Kivu. À Goma, où ce processus a commencé, aucun enfant n'a été identifié, précise le responsable de cette section au Nord Kivu. Goma, Moïse Mutunga Lukube, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
c'est Marthe Bossoindolé pour l'agence France Presse. Et ma question est relative à l'arrestation des militants pro-démocratie congolais depuis le 15 mars. Est-ce que la MONUSCO a eu accès à ces activistes et on peut savoir aussi votre réaction par rapport à cette détention? Merci.
C'est la question posée mercredi dernier à la conférence de presse des Nations Unies par notre consoeur Marthe Bossoindolé de l'AFP. Écoutez maintenant la réponse de Aziz Abdoulaye Tioye, directeur adjoint au bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme.
Par rapport aux militants pro-démocratie qui ont été arrêtés il y a cela quelques jours, je suis au regret de dire que nous n'avons pas pu avoir accès à eux pour la simple raison que nous n'avons pas un accès physique aux locaux de détention de l'ANR. Cependant, nous avons pu avoir des réunions de suivi avec les responsables de l'ANR concernant la situation de ces activistes qui sont détenus par l'ANR.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Gwendoline Akung Ngou, pour être plus précis. Je suis célibataire. J'ai un master. Je pense qu'ici au Congo, c'est l'équivalent de la licence. C'est un master en interprétation obtenu dans une école camerounaise. C'est l'école supérieure des traducteurs et des interprètes. Et au sein de la MONUSCO, je suis assistante de M. Martin Kobler, le représentant spécial, depuis pratiquement un an maintenant, donc depuis avril de 2014. Mais bien sûr, j'ai commencé à travailler dans la mission, je pense, depuis janvier 2012. Et mes tâches quotidiennes, disons que je passe beaucoup plus de temps dans des réunions. Je la commence le matin, quand j'arrive au bureau très tôt le matin, peut-être à 8h10 par là. 20 minutes après, en général, j'ai une réunion qui dure une heure environ. En fait, mes responsabilités, c'est prendre des notes et faire un rapport. Donc je passe quasiment toute la matinée à faire des rapports. Et à midi, bien sûr, je vais manger, je vais déjeuner, je reviens au bureau une heure ou 40 minutes après. Je continue ma journée jusqu'à la fin. Donc, je passe pratiquement toute ma journée au bureau. Je rentre peut-être vers 20h ou 21h. Et bien sûr, toute fatiguée. Et je dois chercher peut-être à manger. Et puis après, il faut se coucher tôt aussi parce qu'il faut que je parte du bureau tôt le lendemain. Mon parcours à la MONUSCO, comme j'ai dit tantôt, je suis arrivée en janvier 2012. J'ai été recrutée comme volontaire traducteur-interprète. Je suis interprète de formation. Bien avant la MONUSCO, je travaillais au Cameroun. Je suis camerounaise de nationalité. Je travaillais dans un cabinet de traduction d'interprétation. Là, je crois que j'ai passé peut-être 2 ans dans ce cabinet. Là, et bien auparavant, j'avais travaillé pour un cabinet d'intermédiation financière, tout juste après avoir reçu ma licence au Cameroun, et qui est l'équivalent du graduat ici. Mon temps libre, déjà, j'ai pas beaucoup de temps libre. C'est pas évident, travaillant dans le front office. Le temps libre, disons, c'est dimanche peut-être qui est ma journée libre, parce que en général, je travaille jusqu'au samedi. Et le dimanche, je passe beaucoup plus de temps à l'église et je rentre à la maison et j'essaye de cuisiner un peu, j'essaye un peu de préparer la semaine qui suit. Et mes préférences en matière de musique, j'aime beaucoup la musique religieuse. J'aime aussi la musique latino parce que j'aime beaucoup l'espagnol également. En matière de sport, je sais que quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup le tennis, mais j'ai pas eu l'occasion d'apprendre. C'est vrai que parfois j'allais dans les cours et je regardais les gens jouer, mais j'ai pas pratiqué le sport en tant que tel, mais j'ai beaucoup aimé le tennis quand j'étais plus jeune. Je dirais pas que j'ai un mes favoris, qu'il y a un plat que j'aime, mais en général, je mange simple, je mange africain. Je préfère vraiment faire mes plats moi-même ou manger vraiment ce qu'est cuisiné à la maison. Perspective d'avenir, disons que j'ai rien de fixé pour le moment, mais j'aimerais bien passer même une année sabbatique à ne rien faire, à juste me reposer et peut-être apprendre l'élan avant de voir ce que je fais pour l'avenir. Je voulais dire coucou aux auditeurs de Radio Capi. Vraiment, je remercie déjà les techniciens, le staff de la Radio Capi qui nous gardent informés et qui nous apportent les nouvelles de la RDC. Et donc, je voudrais dire bonne journée aux auditeurs de Radio Capi et restez à l'écoute de Radio Capi.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Deux dates à retenir la semaine prochaine dans le calendrier des Nations Unies. Le 2 avril, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et le 4 avril, la journée internationale pour la sensibilisation aux mines et l'assistance à la lutte anti-mines. C'est la fin de cette édition présentée par Thérèse Bassoubi sous la supervision de Ben Kabamba. Jean-Pierre Elali Koko a assuré la coordination et Honoré Missenga Kalala était en reportage. Nous espérons vous retrouver avec le même plaisir dimanche prochain. En attendant, écoutez ce numéro de magazine des Nations Unies sur radiocapi.net, c'est le site donc de la radio. Excellente journée dominicale à tous.